l'exclusion sociale laissée au Festival de Cannes.
Voilà, de retour dans La Passion du 7e art, une émission en direct diffusée sur 40 radios en France grâce au soutien de Radio France Internationale en partenariat avec Cannes Cinéma, Cannes Cinéphile et Vision Sociale de la CCAS, bien sûr. Parmi les invités de cette sélection, j'ai le plaisir d'accueillir Juan Salanas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de Que sea l'ai, vous me reprendrez certainement sur mon accent, un documentaire sur l'Argentine présenté, Juan Salanas, en sélection officielle, séance spéciale du Festival de Cannes cette année, un documentaire sur le combat des femmes argentines pour le droit à l'IVG, donc le droit à l'avortement. Si vous avez fait un documentaire sur ce sujet important, c'est que le combat et le constat surtout est accablant. Une femme meurt chaque année et chaque semaine, pardon, des suites d'un avortement clandestin, puisqu'en Amérique latine, eh bien, il n'est pas autorisé de pratiquer l'IVG. Portrait donc d'une féministe argentine, c'est ce que vous avez voulu nous dire avec ce documentaire, je le rappelle, pris en sélection officielle de Cannes et repris par Vision Sociale de la CCAS au Château des Mineurs. Vous avez voulu donner la parole à ces femmes qui en sont privées ?
Absolument. Le pari du film, c'était juste de montrer la réalité. C'est un film totalement engagé, mais je précise que ce n'est pas un pamphlet. Le film, c'était mon obsession. C'est pour ça que même je n'interviens pas, je ne pose pas de questions, on ne me voit pas. C'est être le plus... enregistrer la réalité qui est pour moi, comme vous l'avez dit, accablante, ahurissante, tragiquement surréaliste quand on entend des histoires. Pour moi, c'est insupportable. Je suis argentin et grandi en France. Dans un pays où on a le droit d'avorter depuis la loi Veil. Moi, je suis arrivé en France en 77, ça faisait 3 ans que la loi était là. Moi, j'étais petit. Je n'ai appris que dans les années 2000 que c'était, pour moi, c'était quelque chose de naturel, comme que l'eau est potable dans le robinet. Donc, quand j'ai appris ça, ça m'a stupéfait, horrifié. Je l'ai inclus dans mon premier film, le Nord-Esté. La protagoniste avorte en caméra, elle décide d'avorter. Ce qui m'a valu après pas mal d'inconvénients. Le film est là pour donner la parole et surtout pour montrer aux gens. En fait, le camp des pro-vie, ce qui est un nom très pervers, issu sûrement d'un cabinet de communication, les gens qui sont contre l'avortement, qui s'autodénominent pro-vie, tout ce qu'ils obtiennent, c'est la mort des femmes quand même. Donc c'est paradoxal. La vie, c'est ces femmes-là qui se battent pour avoir une vie, pour avoir le droit de décider sur leur corps, avoir une vie digne et belle comme on a tous le droit. Alors oui, le film est là pour juste montrer cette réalité. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre, qui ne veulent pas s'informer parce que c'est une patate chaude. Moi, je croisais beaucoup de gens à Buenos Aires. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et je racontais. Et je voyais le petit visage, le petit sourire gêné. Oh là là, quel thème! C'était ça le commentaire. Et je comprenais parfaitement ce que ça voulait dire. Ah oui, oh là là, oui, parce que quand même tuer des bébés, ou je sais pas. Le film est là pour vous informer. Le film est là, transparent. Personne, même du camp propre, peut dire que ce que raconte le film est faux. J'ai pris soin de faire un boulot de journaliste rigoureux. Je montre la réalité. Je n'ai même pas choisi les témoignages, même si après, bien sûr, dans l'édit, j'en avais 300 ou 200, donc j'ai choisi. Mais les témoignages sont ceux qu'ils sont. Je recevais un message, parce que, comme c'est interdit, il y a une histoire de confiance, c'était pas évident qu'on veuille parler. Qui plus est, je suis un mec. Donc c'était pas évident. Et petit à petit, la parole s'est déliée. Et donc le film est là juste pour qu'on écoute ces femmes qui sont... C'est l'autre face de la monnaie du pro-vie. C'est la conséquence bien concrète des femmes qui, non seulement qui meurent, qui sont torturées. Parce que c'est quand même ahurissant d'entendre des histoires quand une femme en Argentine va à un hôpital parce que son avortement clandestin s'est mal passé. Là, généralement, elle prend un ticket pour l'horreur. On va lui faire un curetage sans anesthésie parce que tu as bien joui, alors maintenant tu n'auras pas d'anesthésie. Mais souvent, on va les faire attendre 10-12 heures dans un couloir, voir si elles ne meurent pas avant. Mais c'est la vérité. Et ça fait sourire parce que c'est surréaliste. Oui. Moi, quand j'ai appris ça en 2000, j'ai eu le même... Je pensais que c'était une vanne. Et puis j'ai vu les... Et puis, comment ça, non? Donc, quand une femme arrive avec une septicémie, quand ça se passe mal, un avortement, on commence à avoir une infection à l'intérieur et qui prend très vite tous les organes et on meurt. C'est une infection généralisée, une septicémie. Quand on a une septicémie, on a des minutes, on a quelques heures pour sauver la vie de quelqu'un. Donc, quand le corps médical laisse une femme dans un couloir 12 heures avant de l'opérer, ça veut dire qu'avec un peu de chance, elle meurt. Même à 80%, elle meurt. Quelques témoignages le racontent, malheureusement. Ça, c'est ahurissant. Bref, donc le film montre ça à point, point, et d'une façon indiscutable.
Alors, vous qui êtes argentin, et que vous avez donc été obligé de suivre votre famille, et on va expliquer pourquoi, est-ce qu'on peut dire que c'est un combat de plus dans votre vie, Juan Solanas, en sachant justement que votre famille a été obligée de quitter l'Argentine donc en 76, et pour cause, alors que vous aviez à l'époque 10 ans, pour un exil en France, et après, vous êtes retourné dans votre pays natal. C'était quelque chose de très important pour vous. Vous avez souffert aussi de cet exil forcé de vos parents?
Ah oui, moi je n'ai jamais digéré cet exil. Mon père est parti le jour même. Mon père était dans la première liste des gens qu'on allait tuer. Donc quelqu'un l'a prévenu et il a sauvé comme ça sa vie. Et puis on s'est retrouvé en France. On parlait un mot de français en août 77 et en septembre j'étais à l'école française sans comprendre un mot. En CM2. Donc je n'ai jamais digéré l'exil et j'ai toujours su que j'allais rentrer. C'est quelque chose que c'est un rendez-vous que j'avais avec mon pays, avec ma réalité. Et pour moi, la réalité est politique. Dans les temps qu'on vit, s'il n'est pas politique, alors on va faire exploser la planète. Enfin, quand on voit des Trump, des Bolsonaro, des Vox en Espagne, il faut s'engager. Donc moi, alors évidemment, je suis le fils de mon père qui est un cinéaste engagé depuis l'heure des brasiers. Bon, j'ai grandi dans ça, donc pour moi c'est naturel que ça soit comme ça. D'ailleurs, c'est mon seul moteur. C'est très dur de faire un film. Moi, j'ai besoin de sentir que j'ai un engagement. Alors des fois, il est visible, des fois moins visible dans les films que je fais, mais à la base intime à moi, il y a une envie de militer pour une cause. L'homme sans tête, c'était la dictature de l'apparence. Qu'est-ce que c'est quand on est une adolescente de 13 ans et qu'on est grosse, par exemple? C'est violent de voir, de se comparer aux magazines où toutes les filles sont photoshopées. C'est même plus des êtres humains. Ça correspond même pas aux standards humains. C'est super dur. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours été drivé par des thèmes et après, mon imagination fait ce qu'elle veut. Là, c'est un doc. Là, c'est la réalité. Là, c'est cru. C'est direct. Et voilà.
D'ailleurs, l'homme sans tête a été primé maintes fois primé et il a reçu le prix du jury à Cannes en 2003. Vous avez fait d'autres films, des longs métrages aussi, qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un certain regard pour Nord-Est aussi.
Dont la protagoniste avorte.
Voilà.
Au nord de l'Argentine.
Voilà. Vous avez quand même les idées chez vous qui font leur chemin, mais vous êtes quand même coriace à cette lutte, parce que Nord-Est, c'était en 2005.
Ouais,
et nous sommes aujourd'hui en 2019.
Oui, et le scénar, je l'ai écrit en 2004.
Ah, voilà.
2003-2004 pour tourner en 2005. Donc oui, mais parce que c'est comme une horloge suisse tragique, toutes les semaines, une femme meurt en Argentine, ça loupe jamais. Plusieurs femmes meurent par jour au niveau de l'Amérique latine. Il y a 300 millions de femmes qui n'accèdent pas à l'avortement en Amérique latine. Ça en fait plusieurs par jour qui meurent. Quand il y en a une qui meurt, il y en a 100 qui ont des séquelles à vie, à quelles on enlève l'utérus, à quelles... Donc il y en a 100 qui se retrouvent hospitalisés. Bon bref, donc c'est une tragédie pour moi incompréhensible.
Alors on comprend évidemment votre engagement auprès du combat des femmes, et on sait aussi que vous préparez votre quatrième long métrage qui s'intitulera « Les sept vies d'une femme ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez un sujet important de société, et plus que ça, politique aussi et humain à la fois, et vous le mener ce combat jusqu'au bout?
Oui,
Oui, je suis très têtu.
Oui.
Je suis très têtu. Pour mon malheur aussi, je suis très têtu. Mais c'est comme ça. Alors, cette idée m'est venue avant le doc. Et en fait, il y a un an et demi. Et puis, je me suis mis entre parenthèses. J'ai passé un an à faire ce film. Et là, je compte bien la reprendre parce que je suis têtu.
Bon, d'accord. On sait aussi que vous avez consacré un documentaire sur les survivants du Tché.
Alors oui, ça, je suis producteur.
Voilà.
Alors... Christophe Réveil, un magnifique documentaire. Et je tiens à dire qu'on a réussi à prendre des témoignages qui n'ont jamais été pris de tous ceux qui ont survécu, qui ont été à la Sierra Maestra avec le Tché. Tous parlent. On a même l'agent de la CIA qui était chargé de le traquer qui parle. On a tout le monde. Donc ça par contre, c'est un apport à l'histoire. Alors ce documentaire, ben on va, de ceux qui l'ont vécu, on va savoir à peu près comment ça s'est passé.
Voilà, né à Rosario, assassiné en Bolivie. Et entre ces deux vies et morts, comme ça, une histoire extraordinaire, aussi d'un combat qu'il n'a jamais lâché du début à la fin, avec une prise de conscience extraordinaire dans la plus grande mine de cuivre du monde, donc celle du Chili, bien sûr dans le désert de l'Atacama. Vous êtes évidemment un producteur, un cinéaste engagé, Juan Solanas, donc là, pas de hasard non plus dans le cadre de votre accueil à Vision Sociale, hein. Je crois que vous avez beaucoup de choses
pour moi, c'est
commun.
Le plus gros prix, je veux dire, parce que le film voilà. Est là pour ça, donc être à Vision Globale, ben, c'est magnifique. C'est du cinéma engagé qui ne cache pas son engagement.
Est-ce que les témoignages que vous avez recueillis en Argentine, on sait ô combien l'Argentine est grande et diverse à la fois, de Rouroui à Ushuaïa, en passant par Buenos Aires, presque un pays dans un pays, etc. Ouais. Donc les témoignages des femmes, est-ce qu'ils sont les mêmes qu'on habite à Mendoza, qu'on habite à Rouroui, qu'on habite à Ushuaïa ou qu'on habite encore à Buenos Aires?
Alors la torture de la société est la même. Même on retrouve des mêmes phrases. T'as joui, maintenant tu vas avoir, machin. Donc c'est des phrases, c'est comme si c'était tous parler, raconter les mêmes phrases. Par contre, quand on est pauvre, qu'on habite à Santiago del Estero, par exemple, ou à Tucumán, dans une province provie, et qu'on est loin de tout, là, quand on doit avorter, les chances sont tragiques contre vous. J'ai tourné une famille qui est dans le film, ils ont perdu leurs deux filles. Leurs deux filles sont mortes. Hein, leurs deux filles sont mortes à cause d'un avortement clandestin à 3 ans d'écart ou 4 ans. Les deux grands-parents sont en charge de 5-6 petits-fils qui n'ont plus leur mère. Moi, j'ai tourné les petites-filles, ces deux petites-filles de 4-5 ans. C'est terrible, hein, c'est terrible. C'est des gens qui n'ont pas d'eau potable. Non, mais il faut comprendre le truc.
Oui.
Qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de voiture. Il n'y a pas de signal de téléphone. C'est des Robinson Crusoe au milieu de nulle part. Ils ont quelques poules, quelques animaux, et vivent en... Donc là, c'est pas Buenos Aires. Et là, quand tu as un problème comme ça, et quand tu tombes dans un hôpital où on voulait s'attendre, une des histoires, Liliana Herrera est morte après 12 heures d'attente, dans l'odeur de pourriture, parce qu'on pourrit de l'intérieur. C'est atroce.
C'est
révoltant.
C'est vraiment
c'est révoltant.
Le mot. Et est-ce qu'il y a une loi? Est-ce que vous avez un espoir dans les politiques d'aujourd'hui? Est-ce que les choses avancent malgré tout un peu?
Alors, vous savez, c'est les maires de la place de Mai, il fallait être là, hein, devant les militaires, alors que ça tuait des gens, il fallait être là. Donc, c'est-à-dire que le mouchoir vert, c'est le petit-fils du mouchoir blanc. Parce que le symbole, elles ne lâcheront jamais. Ça, il faut le comprendre. Tant que ça ne sera pas loi, elles seront toujours là. Et même ça grandit de plus en plus. Cette année, c'est l'élection présidentielle. Donc, on a du mal à redonner une visibilité. L'Argentine est au bord du gouffre. 36% de pauvres. 50% des mineurs sont pauvres. Quand je dis pauvres, c'est sous le seuil de pauvreté argentin. Autant vous dire le néant. C'est pas de repas par jour garanti et tout ça. Donc là, on a du mal à... dans ce chaos dur de redonner une visibilité au combat. Donc Cannes, extraordinaire. C'est comme si on nous a fermé la porte et on rentre par la fenêtre.
C'est la question que je voulais justement vous poser. C'est-à-dire que Thierry Frémaux soutient le cinéma engagé, on le sait, et notamment le documentaire. Donc que représente pour vous effectivement cette ouverture sur le cinéma mondial, c'est-à-dire votre présence aujourd'hui à Cannes?
Ah non,
en sélection officielle.
Exceptionnel. Je suis tellement reconnaissant. Thierry me dit, mais non, c'est ton film. Enfin, je sais bien que, oui, ok, le film. Mais... Non, il y a un soutien, c'est évident. Alors oui, c'est un cinéma qui se bat et sincère et profond et avec un regard cinématographique. Mais enfin, c'est des causes, c'est tellement important dans le monde actuel dans lequel on vit. Heureusement qu'il y a un Cannes qui permet la visibilité à des projets comme ça d'exister et d'être vu. Parce que sinon, bonjour.
Est-ce que c'est une première mondiale ou est-ce que le film est sorti en Argentine ?
C'est une première mondiale. Je l'ai fini à 3 semaines. J'ai très peu dormi. C'est-à-dire que quand j'ai appris la sélection, j'étais très content et j'ai eu un coup de stress. Mais alors, je pense que j'ai eu un pic de pression quand j'ai raccroché parce que j'avais pas mixé. Je montais encore un peu. Bref, ça a été chaud.
Et est-ce que votre film doit sortir en Argentine ?
Absolument.
Absolument. Le film, absolument. Et pour vous, quelles vont être les réactions et que comment...
Ah ben, ils vont être épidermiques. Ils vont être épidermiques. Moi, tout ce que je veux, c'est que la masse du milieu, celle qui ne sait pas opiner, n'est pas, c'est elle qui m'a... Les militants vont aller le voir, ça sera la joie. Et la joie dans la douleur ou la douleur dans la joie, je ne sais pas comment le dire. Okay. Quelqu'un qui est Opus Dei, il n'ira surtout pas le voir. Voir, il manifestera devant le cinéma avec une croix. Okay. Moi, ce que je veux, c'est... Il y a quand même une grosse frange au milieu des gens à qui ils ne veulent pas s'informer pour ne pas devoir prendre position. C'est à eux que j'invite à voir le film. C'est pour ça que ce n'est pas un pamphlet.
Alors, il est à voir justement ce film pas plus tard que ce soir à 21h hein, au Château des Mineurs, au Château à Agecroft, à la Napoule, dans le cadre du 17e Festival de Vision Sociale de la CCAS. Vous serez là,
Juan
Solanas.
Moi et 50 défendre. Militantes.
Et bien sûr.
Magnifique. Ben... Celles qui ont fait la montée, elles viennent toutes. Elles vont être là avec leur énergie, ça vaut le coup.
Alors, rendez-vous à 21h, toutes et tous, ce soir, pour voir Que sea l'ail de Juan Solanas. On
que se sea l'ail, que
oui, sea l'ail. Merci, je ne parle absolument
bravo,
pas
bravo, en tout cas, bravo.
À ce soir.
Merci.
Merci à vous.